Bonjour à tous. C'est bon, j'ai besoin de micro normalement, c'est bon. On peut mettre la première diapositive. S'il te plaît, Eva. Super. Alors, on vient de parler de bricolage et je vous présente justement une influenceuse qui a fait de ce thème une de ses spécialités, hein. Elle a 1,1 million de followers. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, jusqu'à encore un mois, je ne la connaissais pas. Et ce qui m'a interpellé chez cette influenceuse, hein, son Andy, hein, c'est qu'elle a publié le 30 mai dernier une vidéo assez déconcertante. D'habitude, hein, on la voit plutôt depuis 3 ans, hein, elle retape une vieille maison et donc elle fait ce qu'on appelle du do it yourself. Hein, donc elle se filme, hein, en train justement de faire du bricolage, justement. Et le 30 mai dernier, elle sort une vidéo qui s'intitule Séparation. Maison hantée, occultisme et Dieu. C'est un témoignage qu'elle raconte. Et elle raconte un témoignage assez. Moi, j'ai commencé à regarder, je me dis, bon, 5 minutes, ça a duré 45 minutes, hein, et finalement, j'étais assez happé par ce témoignage. Et ce qui m'a interpellé, alors c'est non seulement qu'elle se convertit à la fin, hein, mais c'est qu'elle a été finalement embarquée dans quelque chose dont on parle finalement assez peu dans nos églises. C'est l'occultisme. Elle qui vient d'une famille athée, donc pas de terreau favorable justement à ce genre de pratique, elle va faire un petit peu pour le fun, hein, quelques séances de spiritisme, et ça va devenir une sorte d'addiction, quelque chose qui va la happer. Elle a pris au début ces choses à la légère, et finalement, ça va avoir un impact très négatif sur sa vie. Les choses se terminent bien pour elle, mais ça m'a interpellé. J'ai fouiné un petit peu, j'ai cherché un petit peu quelques statistiques. 58% des Français, tous âges confondus, déclarent croire à au moins une des disciplines de parascience. Les lignes de la main, la sorcellerie, la voyance, la numérologie, la cartomancie et l'astrologie. Les groupes liés à l'ésotérisme fleurissent sur les réseaux sociaux. Et je vous déconseille, hein, de taper un de ces mots-clés sur YouTube ou sur TikTok. Hein. Vous allez voir, il y a légion de Nostradamus du net, prêts à vous prodiguer des conseils avisés. Hein. Que dit la Bible sur ce sujet? Alors, il y a un personnage qui est tombé justement dans ce genre de pratique. Et pas n'importe lequel. Ce personnage. C'était hein, le premier roi d'Israël. Son nom, hein, vous le connaissez certainement, hein, c'est Saül. Et nous allons justement méditer un passage qui se trouve dans 1 Samuel 28, des versets 3 à 25. L'ultime acte de ce règne crépusculaire, vous allez le voir, hein, le moment où il va rencontrer justement une sorcière, la sorcière d'Endor. Lisons ensemble ce passage, 1 Samuel 28, des versets 3 à 25.
Entre-temps, Samuel était mort et tout Israël avait pris le deuil à cause de lui. On l'avait enterré à Rama, dans sa ville. D'autre part, Saül avait fait disparaître du pays tous ceux qui évoquaient les morts et ceux qui pratiquaient la divination. Les Philistins regroupèrent leurs troupes et établirent leur camp à Sunem. Saül mobilisa tout Israël et dressa son camp à Gilboa. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grand-peur et son cœur fut saisi d'angoisse. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. Alors, il ordonna à ses fonctionnaires: Recherchez-moi une femme capable d'interroger les morts, afin que je puisse aller chez elle pour la consulter. Ses serviteurs lui dirent: Il reste encore à Endor une femme qui interroge les morts. Saül se déguisa en endossant d'autres vêtements, puis il se mit en route avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme, et Saül lui dit: Je désire que tu me prédises l'avenir en faisant apparaître l'esprit d'un mort, celui que je te désignerai. » La femme lui répondit : « Tu sais bien que Saül a fait disparaître du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui pratiquent la divination. Pourquoi donc me tends-tu un piège ? Est-ce que tu veux ma mort ? » Saül prêta serment par l'Éternel. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, dit-il, il ne t'arrivera aucun mal pour cette affaire. » Alors la femme lui demanda : « Qui dois-je faire revenir pour toi ? » ?»« Fais-moi revenir Samuel, dit-il. »
Samuel, le livre de Samuel, quelques mots d'abord sur ce texte. Le livre de Samuel parle de Samuel, bien évidemment, hein. Et on est dans un contexte particulier, hein, vous savez, on est juste après la période des juges. Samuel est d'ailleurs le dernier des juges. Et on est juste avant l'avènement de la royauté, donc celle de Saül, et celle ensuite hein, de David. D'ailleurs, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le modèle et le contre-modèle. En 1 Samuel 10, Saül est donc choisi. Le fier benjaminite, aîné de sa fratrie, établi roi, parce que le peuple a demandé justement un roi. Mais malgré les victoires que l'Éternel va lui donner, il devient vaniteux. Il s'enfle d'orgueil. Il devient inconstant. Il va désobéir à trois reprises, en 1 Samuel 13, en 1 Samuel 14, en 1 Samuel 15. Et c'est David qui va donc être choisi à sa place, en 1 Samuel 16. Point de repentance de la part de Saül, au contraire. Saül devient jaloux de son rival. Et ces chapitres racontent hein, donc la longue déchéance de ce roi. Dieu désapprouve, Dieu avertit, Dieu corrige, mais rien à faire. Saül continue à désobéir. Et voilà donc qu'arrive l'ultime acte de cette désobéissance, l'ultime acte pardon, de ce règne crépusculaire. On est dans un moment où Saül, effectivement, est au fond du trou. C'est pas facile d'admettre cette déchéance quand on a connu les sommets de la gloire. La chute est encore plus difficile à assumer. Le verset 3 rappelle qu'on est au moment de la mort de Samuel. Saül avait obéi à Dieu en mettant, on l'a vu, hein, à mort toutes les sorcières. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Est-ce qu'il fait ça parce que Samuel vient de mourir et qu'il veut montrer en quelque sorte qu'il obéit à son ancien mentor ? Mais au verset 4, Saül est acculé. Il risque d'être défait par l'ennemi de toujours, les fameux Philistins. Il a tellement peur qu'il se met à trembler. C'est la frayeur de celui qui va tout perdre. Il va chercher désespérément à ce moment-là à entrer en communication avec Dieu. Mais Dieu reste silencieux. On a chanté ce matin, on vient de le chanter, hein, « Calme ma crainte, calme mon angoisse ». Dans les moments où Dieu ne répond pas, dans les moments de silence, comment faut-il réagir ? Alors là, vous avez le contre-modèle. La précipitation et une petite visite à une nécromancière, à une femme qui parle aux morts. On oublie souvent que quand on fait une prière, Dieu entend. Alors il ne va pas répondre tout de suite, mais il entend. Et l'épreuve, c'est souvent justement de ne pas d'être impatient, de vouloir avoir une réponse tout de suite, alors que Dieu justement désire qu'on persévère dans la prière. La tentation est donc de voir autre chose si Dieu ne répond pas, et c'est ce que fait notre Saül. Verset 7, l'engrenage débute. Angoissé, le roi va donc consulter une sorcière. Il veut parler avec le fantôme de Samuel, son ancien mentor. Il a besoin d'être rassuré face aux légions de Philistins. Et pourtant, Samuel avait appliqué à la lettre la loi de Moïse. Que dit cette loi sur les divins, sur ceux qui usent de magie? Lévitique 19, verset 31. Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins, ne les consultez pas. Vous vous rendrez impurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 18, verset 10 à 13, va même plus loin. On ne devra trouver parmi vous les personnes suivantes. Deux points. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice. Quelqu'un qui pratique la magie. Quelqu'un qui interroge les charlatans. Quelqu'un qui devine dans le ciel, qui pratique la sorcellerie, qui envoûte les gens, qui jette des sorts, ou d'une manière ou d'une autre consulte les morts. Ceux qui font cela, verset 12, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. Aucun doute n'est possible. Saül est en train de franchir une nouvelle étape. Il tombe définitivement dans ce fameux côté obscur en bravant un interdit clair de la loi. Il se précipite, et vous le voyez, hein, on l'a dit, il part de nuit. Métaphoriquement, cela montre qu'il s'enfonce dans les ténèbres, qu'il refuse la lumière. Et en plus, il se déguise, il se travestit. Quand on pêche, non seulement on refuse la lumière de la vérité, mais en plus on va cacher nos agissements par un subterfuge, un déguisement. L'engrenage est donc en place. Saül est entré dans une spirale descendante qui va donc banaliser cet interdit biblique. Le dialogue qui suit le verset 9 est assez ironique. La sorcière, rescapée, parce que du coup il ne reste plus qu'elle, que les fonctionnaires ont réussi à trouver, elle dit qu'elle a peur d'être mise à mort par Saül, alors même qu'elle parle à Saül, mais celui-ci est déguisé, elle ne le reconnaît pas. La désobéissance n'entraîne que la confusion, alors que rien n'est plus clair que la loi de Dieu. Saül va même jurer jusqu'au verset 10, il utilise le fameux tétragramme, Yahweh, pour conforter son mensonge, de pire en pire. Mais en réalité, il fait ce que beaucoup de gens font. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Il y a quelques semaines, il y a eu les élections législatives, et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un revenant politique cette fois, qui s'appelle Jérôme Cahuzac, qui a osé finalement se représenter aux élections législatives. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le personnage, mais il y a quelques années, il a fait parler de lui, parce que vous savez, il avait prêté serment en disant qu'il allait traquer les fraudeurs fiscaux, alors que lui-même avait un compte caché. Saül fait exactement la même chose. Comme roi, il fait tuer les sorciers, et comme citoyen, il va les consulter. Alors c'est facile de pointer du doigt Saül, mais nous aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas aussi banaliser ces fameux interdits? Est-ce que vous connaissez Harry Potter? Pour les plus anciens d'entre nous, ma sorcière bien-aimée, on ne compte plus le nombre de films et de séries qui reprennent des thématiques liées à la sorcellerie. Depuis, on va dire, la fin des années 90, on a parlé d'Harry Potter, vous avez Twilight, Charmed. Voilà, beaucoup de jeunes adultes, et je me considère dans cette catégorie, je ne suis pas aussi vieux que ça, ont baigné dans cette ambiance où le sorcier, comme Harry Potter, c'est pas la vilaine sorcière de Blanche-Neige et les Sept Nains qui fait peur à ma fille, c'est plutôt un mec qui a l'air cool, presque inoffensif, Harry Potter, avec ses lunettes, celui qui, et même dans ce roman, un élu. 40% des moins de 35 ans croient en la sorcellerie, contre 25% des plus de 35 ans. Là aussi, une statistique qui montre qu'il y a une forte imprégnation de cette croyance chez les plus jeunes. Alors attention, je ne me transforme pas en l'ayatollah du 106, qui vous demande justement de ne pas regarder Harry Potter. Ce n'est pas ça. Le risque, c'est plutôt de banaliser, de considérer hein, que c'est pas grand-chose finalement de présenter hein, la sorcellerie sous cette facette-là. Alors, c'est d'autant plus difficile que ce genre de film s'adresse plutôt à un public jeune et donc beaucoup plus vulnérable. Alors oui, Saül, il est plus radical hein, parce qu'il est allé voir justement une nécromancienne, mais on peut dire que dans son esprit, il avait déjà banalisé finalement hein, cette pratique-là. Et que l'étape d'aller voir cette sorcière n'est que le point d'orgue d'une longue attitude hein, finalement qui n'a eu de cesse que de banaliser les interdits bibliques. Alors effectivement, personne ici ne consulte les Nostradamus de TikTok. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà lu au moins une fois hein, l'horoscope, par exemple? Juste pour se rassurer un petit peu. Est-ce que vous n'avez pas, peut-être sur vous, un objet, porte-bonheur, une sorte de talisman? Je dis ça parce que moi j'ai été un petit peu embarqué là-dedans. Je viens d'un milieu catholique et quand j'étais enfant, hein, j'avais une petite croix que ma mère m'avait donnée. Et cette croix, eh ben, j'étais pas serein quand je n'avais pas. J'avais l'impression de ne pas être protégé par Dieu. Cette protection de Dieu, elle agissait finalement à travers cet objet. Quand je me suis converti, j'ai remplacé cette croix latine par une croix huguenote, mais le réflexe était le même. J'avais besoin de cet objet pour être protégé. J'ai perdu un jour cette croix, et ça m'a délivré, heureusement. Mais on peut facilement tomber dans ce genre de pratique. Avez-vous déjà parlé à une personne proche décédée? Victor Hugo, le grand écrivain, a perdu tragiquement sa fille, qui s'est noyée dans la Seine, et 10 ans après, il a pratiqué des séances, lui aussi a pratiqué des séances de spiritisme, et quand il a mis les pieds là-dedans, pendant plusieurs années, il n'a pas réussi justement à s'en défaire. La tragédie était telle que d'essayer d'entrer en communication avec sa fille, ça le rassurait, mais ça l'a complètement éloigné de Dieu, si tant est hein, qu'il s'était converti avant. Un témoignage peut-être plus personnel, il y a quelques années, nous avons, avec des anciens, suivi un petit groupe de de personnes qui allaient se faire baptiser. Et il y avait parmi ce groupe de 3 personnes, justement, quelqu'un qui avait aussi perdu un de ses enfants de façon tragique. Et lui aussi entrait régulièrement en contact avec sa fille, qu'il croyait être sa fille. Hein. Alors ça peut être un chemin quand on est en deuil, mais quand ça dure plusieurs années, ça peut poser un certain nombre de questions. Et finalement, cette personne ne s'est pas faite baptiser. C'était devenu un frein trop important quand nous avions mis justement le doigt là-dessus et que cette pratique, il fallait justement l'abandonner. Il faut faire attention donc à ne pas mettre le doigt dans ce genre de pratique, surtout dans des situations de stress, de peur, de deuil, de vulnérabilité. Et là, je vous renvoie à ce témoignage. Un nombre de consultations ésotériques qui sont devenues justement une addiction. Lisons la suite du passage.
Quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, puis, s'adressant à Saül, elle dit « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül !»« N'aie pas peur, lui dit le roi. Dis-moi plutôt ce que tu as vu. » « Je vois un être surnaturel qui monte des profondeurs de la terre, » lui répondit-elle. « Quel est son aspect ?» lui demanda Saül. « C'est un vieillard qui revient, drapé dans un manteau. » Alors Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina, la face contre terre, et se prosterna. « Pourquoi troubles-tu mon repos ?» lui demanda Samuel. « Pourquoi m'as-tu fait revenir ?»« Je suis dans une grande détresse, » lui dit Saül. Les Philistins m'ont déclaré la guerre, et Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par des rêves. Alors je t'ai fait appeler pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Et pourquoi tu me donc me consultes-tu ? Reprit Samuel. Si l'Éternel s'est détourné de toi et s'il t'est devenu hostile. Oui, l'Éternel exécute ce qu'il t'a déclaré par mon intermédiaire. Il t'a arraché la royauté et l'a donné à l'un de tes proches, à David. Parce que tu n'as pas obéi à ses ordres et parce que tu n'as pas exécuté le jugement qu'il avait décidé dans sa colère contre les Amalécites. Voilà pourquoi l'Éternel agit ainsi envers toi aujourd'hui. Bien plus, avec toi, l'Éternel livrera aussi Israël au pouvoir des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Oui, c'est bien toute l'armée d'Israël que le Seigneur livre au pouvoir des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit : Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il refusa et dit : Je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras, qu'elle se hâta de tuer. Elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs. Et ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même.
Voilà une scène qui fait froid dans le dos. La sorcière pousse un cri d'effroi, surprise, peut-être par son pouvoir, hein, mais surtout, surprise de découvrir que le bourreau de ses collègues est en face d'elle, c'est Saül. Les masques tombent, le déguisement n'est plus. Si la sorcière est certaine désormais de l'identité de Saül, le mystère plane sur l'identité de celui qui apparaît de façon ici surnaturelle. Est-ce vraiment Samuel ? Voilà un débat qui est vieux comme le christianisme, parce que les gens se sont un peu disputés. L'exégèse talmudique déjà hésitait sur l'identité de cette apparition surnaturelle. Et les pères de l'Église, eux-mêmes, se disputaient. Origène d'Alexandrie, au IIIe siècle, considérait que c'était bel et bien la réincarnation de Samuel, donnant là des arguments à ceux qui, au Moyen-Âge, vont ensuite théoriser le fameux purgatoire. D'autres pères de l'Église, comme Tertullien, disent « Ah non, non, ce n'est pas Samuel, c'est un démon. » Et les réformateurs, comme Calvin, Martin Luther, reprendront cet argumentaire en disant justement que c'est bel et bien une contrefaçon démoniaque. Je ne vais pas trancher sur ce débat. Je pense que le rédacteur a volontairement laissé un peu de flou. Pourquoi ? Parce que quand on est sur le chemin de l'obscurité, quand on est sur le chemin de la nuit et de la désobéissance, rien n'est clair. Tout n'est que confusion. J'en veux pour preuve. La voyante, elle voit Samuel, mais elle ne l'entend pas. Quant à Saül, il entend Samuel, mais il ne le voit pas. Et les serviteurs, les fonctionnaires qui sont à côté, eux, ils ne voient rien, ils n'entendent rien. On est là dans quelque chose qui est assez classique finalement. Un philosophe juif du XIIIe siècle, qui s'appelle Lévi ben Abraham de Villefranche, dit que la nécromancie, ce n'est qu'une production de l'imagination. Chacun voit ce qu'il a envie de voir. Saül voulait voir Samuel, il voit un bout de manteau, on lui dit qu'il y a un manteau qui apparaît, un vieillard, il dit que c'est Samuel. Les fonctionnaires, les serviteurs qui sont à côté, ils avaient besoin de rien, ils ne voient rien. La nécromancie, ça ne fonctionne pas. Elle ne délivre aucune information qui viendrait de l'au-delà et qui nous permettrait de connaître l'avenir. Et cela est confirmé par le contenu même des paroles attribuées à ce Samuel fantomatique. Ce qui me frappe, c'est que ce Samuel ne révèle rien à Saül. Il ne fait que lui répéter ce qu'il avait déjà dit de son vivant quelques chapitres auparavant. Il lui rappelle le rejet de Dieu, ce que Saül a déjà expérimenté, parce qu'il ne dit ne plus avoir la moindre communication avec lui, et il en tire les conséquences, il ne fera pas le poids face aux Philistins. Samuel lui dit la même chose, lui a dit la même chose de son vivant, rien de nouveau. Pas de breaking news avec cette fameuse révélation qui vient d'outre-tombe. Et ceci nous montre bien que c'est pour ça qu'il y a un interdit sur la divination. Ça ne marche pas, il n'y a rien à en retirer. Saül cherchait à être rassuré par la sorcière, mais on ne peut pas trouver de réponse dans la désobéissance et dans la nécromancie. Et là, c'est le fameux boom. Saül tombe, métaphoriquement, littéralement, au verset 20. Sur l'échelle du flipomètre, il passe de 5 à plus 10 000. Il est dans un état catatonique. Il est plus bas que terre. Il est vraiment là au fond du trou. Dieu sait ce qui abîme l'homme. Il veut absolument nous préserver de ça. Encore une fois, Saül, c'est le contre-modèle. C'est un avertissement pour tous ceux qui seraient tentés par le spiritisme ou l'occultisme. Il ne veut surtout pas qu'on fasse la même erreur. Essayez par tous les moyens de parler aux morts, quitte à utiliser les voies occultes. Voilà les conséquences. Les morts n'ont pas vocation à conseiller les vivants. Vous connaissez la parabole de Lazare et de l'homme riche. Jésus raconte que l'homme riche est dans un lieu de tourment, après une vie d'égoïsme. Et il voit Lazare de l'autre côté, dans la félicité des justes. L'homme riche regrette son sort amèrement. Et il dit à Abraham, il supplie Abraham de laisser Lazare revenir dans le monde des vivants pour avertir notamment les membres de sa famille du danger qui les attend. Mais voilà ce que dit Abraham. Luc 16, verset 29. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, qui les écoutent. Verset 30. Non, père Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Pour surmonter les épreuves, pour trouver le royaume des dieux, on n'a pas besoin des morts. On n'a pas besoin d'un revenant qui nous expliquerait un petit peu le cheminement à suivre. Mais on a simplement besoin de la parole de Dieu. Saül aurait dû se contenter de Moïse et des prophètes. Et nous, nous devons nous satisfaire de la Bible et de la parole de Dieu. Alors ce passage ne se contente pas de montrer l'inutilité de la divination. Ce passage nous parle aussi de l'Évangile. Ce passage nous parle aussi de la grâce. Il ne s'agit pas seulement de déconstruire, il s'agit aussi d'édifier. Et là, petit focus sur la sorcière. Épargnée, graciée, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'elle fait à Saül, qui est plus bas que terre, qui ne réagit même pas Qu'est-ce qu'elle va lui donner? Du pain. Du pain. Et pas un petit sandwich de rien du tout. Elle va confectionner du pain sans levain. Et elle va même tuer le fameux veau gras. Pain sans levain, veau gras. Ça doit faire un peu tilt là. Ce n'est pas un kebab qu'elle lui donne. Cette nourriture a une dimension très particulière. Le pain sans levain, c'est quoi? C'est cette nourriture que les Israélites ont emportée à la hâte au moment où il fallait quitter l'Égypte. Le levain, c'est le symbole du péché. Donc le pain sans levain, c'est ce pain qui est pur. Et le veau gras, ça nous rappelle justement directement une autre parabole de Jésus, le retour du fils prodigue, le père qui va tuer le veau gras et qui va offrir le pardon, en quelque sorte, à son fils. Je n'irai pas plus loin dans les spéculations, mais très clairement, la nécromancienne, elle est épargnée, elle est graciée dans cette histoire. Est-ce qu'on parle d'elle après, dans les autres chapitres ? Non. On ne parle plus de la nécromancière d'Endor. On ne sait pas ce qu'elle devient après, mais très clairement, on voit ici, je pense, la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu qui est aussi offerte à Saül. Parce que Saül, qui est plus bas que terre, va être relevé justement par la nécromancienne avec ce fameux repas. Mais, on l'a chanté ce matin, Saül aurait dû chanter « Grâce infinie ». Il s'est relevé, mais malheureusement, il va reprendre toujours la mauvaise direction. Et c'est ça qui est le plus terrible dans cette histoire. C'est qu'au lieu de voir l'aurore du jour nouveau que nous avons chanté ensemble, Saül se relève, mais il reste dans la nuit. Lui qui ne s'était pas alimenté de la journée, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait toute la journée? Il s'est nourri du défaitisme. La mort était devenue son centre de gravité. Il a voulu parler aux morts. La mort lui dictait chaque instant ses conseils. La mort était devenue pour lui un trou noir, l'engloutissant inexorablement. Alors qu'il avait la possibilité à ce moment-là de choisir une autre voie, Saül se remet en marche, toujours dans la nuit, toujours dans la mauvaise direction. Nous lisons au chapitre 31, à partir du verset 2, donc chapitre 31 du livre de Samuel. Les Philistins s'acharnèrent sur Saül et sur ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. Dès lors, tout le combat se concentre sur Saül. Les archers le découvrirent et il en fut très terrifié. Alors il ordonna à celui qui portait ses armes, « Dégaine ton épée et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me transpercer et me faire subir leurs outrages. » Mais celui-ci refusa, car il tremblait de peur. Alors Saül prit lui-même l'épée et se jeta dessus. Le dernier acte d'un règne crépusculaire, une mort indigne, un suicide. Comme d'autres après lui, comme Judas par exemple, il se laisse aspirer par cette spirale descendante, par l'engrenage de la désobéissance. C'est une tragédie. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas un message hyper enthousiasmant pour l'été, je suis désolé. Mais je vous ai dit, il y a quand même un message d'espoir dans ce texte. Vers qui se tourner en cas de stress, en cas de choix cornélien, en cas de silence, en cas de deuil, en cas de chute? Vers une voyante? Vers un horoscope? Vers le surnaturel? Non, la parole de Dieu. Par cet exemple, Dieu nous montre les dangers de se laisser conduire par ses projections, par ses fantasmes, par son orgueil. La dernière nuit sur terre de Saül est l'exact opposé de la dernière nuit sur terre de Jésus. Contrairement à Saül, malgré les silences, malgré l'angoisse, car Jésus était dans cette situation-là aussi, lui restera connecté au Père jusqu'à la fin. Son dernier repas, Jésus le fera en communion avec son Père et avec ses disciples. Il obéira jusqu'à la mort, enclenchant lui une spirale ascendante vers la résurrection et le ciel. Oui, on n'a pas besoin de consulter les morts, mais on a besoin de celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Ce Jésus est mort pour tous nos écarts, pour tous nos occultismes. Ce Jésus est la vie. Il est lui remonté d'entre les morts car la mort n'a pas pu le retenir. Il est devenu à jamais le vivant. Apocalypse 1, verset 18, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, nous avons besoin de celui qui est vivant, de celui qui est la résurrection et la vie. Si nous sommes tentés de faire des compromis avec le monde de l'occultisme ou avec tout autre domaine, rappelons-nous que cela est vain, car Jésus a été vainqueur sur le monde des morts. Nous avons donc un choix à faire. Regarder au fond du trou, au risque de tomber, et surtout de rester dans ce trou, comme l'a été Saül, ou alors lever les yeux vers le ciel, vers la croix, vers ce jour nouveau dont on a parlé tout à l'heure dans ce fameux chant. Enclenchant pour nos vies cette spirale ascendante de l'obéissance et de la confiance. Je vais prier. Seigneur, dans ta parole, il y a tant de modèles d'obéissance. Ce ne sont pas des hommes parfaits qui sont évoqués dans ta parole, ce sont des hommes imparfaits. Mais il y a aussi des contre-modèles, comme Saül. Si tant de détails sont évoqués sur sa vie, c'est que cela doit être là pour nous avertir, Seigneur. Nous sommes dans une période où il y a des choses interdites qui reviennent à la mode. Nous devons être vigilants, Seigneur. Ton esprit nous protège de tout cela. Mais nous devons veiller sur ceux qui sont les plus vulnérables. Nous devons être à l'écoute de ceux qui sont dans des situations de stress ou de deuil et qui peuvent parfois tomber dans des pratiques que tu ne peux pas tolérer, Seigneur. Aide-nous à leur parler non des morts, mais du vivant, de toi, qui fait grâce même à ceux qui sont tombés si bas, qui fait grâce même à ceux qui sont tombés dans le spiritisme ou l'occultisme. Tu nous laves de tout péché, Seigneur. Donc ce sacrifice n'est pas vain, et au contraire, tu nous entraînes avec toi dans cette spirale ascendante vers le trône de grâce. Pour ces jours à venir, soyons effectivement dans ton repos, Seigneur. Méditons ta parole, car elle est riche. Méditons ta parole, car beaucoup de ces personnages que nous avons évoqués ne l'avaient pas entre les mains. Méditons ta parole, Seigneur. Amen.